Hello à toutes et à tous, bienvenue sur la troisième saison de Journal Urbain, le podcast de l'art de vivre, qui réunit des témoignages de profils créatifs dans la food et l'art. Je suis Chloé Brunet et je vous invite avec ce projet indépendant à découvrir des personnalités singulières, inspirantes et engagées, des femmes et des hommes passionnés qui embellissent le monde d'aujourd'hui. Ici, le beau et le bon riment avec passion. Aujourd'hui, je rencontre Théodora Grimesen, qui co-dirige depuis quelques années la marque de chaussures Springcourt avec ses deux sœurs, Laura et Florence. Fondée en 1936 par son grand-père, cette marque historique a débuté sur la terre battue de Roland-Garros auprès de joueurs internationaux de tennis, avant de devenir objet du quotidien et de nos cours de PS, puis plus tard, marque de rébellion de la jeunesse des années 60-70 grâce à des figures emblématiques de l'époque. Passée de génération en génération, la marque démarre depuis peu un nouveau chapitre avec à sa tête trois jeunes femmes pleines d'énergie et d'espoir, conscientes de la chance d'hériter d'une telle entreprise et également de la responsabilité de la faire vivre dans son époque et dans ses enjeux. On a donc tout naturellement parlé de transmission, de devoir, de la richesse des archives d'une marque de près de 90 ans, mais également de repositionnement, de réflexion sur le sourcing et la production, du savoir-faire et de l'importance de la qualité. Comment perpétuer cette marque, iconique, en respectant le produit tel qu'il a été conçu, simple, unisexe et durable. Salut Théodora.
Salut Chloé.
Je suis ravie de te recevoir sur Journal Urbain. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous, chez Springcourt.
Merci à toi de venir nous voir, c'est très cool.
Alors on est à Paris, dans le quartier de Belleville. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur où est-ce qu'on se trouve, quel est ce lieu et qu'est-ce qu'il représente pour toi ?
Alors, on est au cœur de l'usine Springcourt, qui est un bâtiment qui est situé vraiment dans le bas Belleville, entre Belleville et Goncourt, et qui a été construit une première fois en 1870, puis qui a brûlé et qui a été reconstruit dans les années 20. Quand on passe ce grand portail, on a assez vite, quand on fait quelques pas, sur notre droite, on a le restaurant, qui pour l'instant est fermé, mais on a un projet de réouverture dans les mois, semaines qui viennent, donc très bientôt. On a plusieurs studios de prise de vue qui sont situés à différents endroits dans l'usine. Et on a au fond, à droite de la cour, tout au fond, la boutique Springcourt, qui est aujourd'hui un de nos flagships. Et le reste, c'est des bureaux et certaines habitations aussi. Il y a aussi des gens qui vivent sur place.
Donc un petit microcosme.
Un vrai petit microcosme qui grenouille beaucoup. Et le siège de la marque Springcourt.
Ok, très bien. Donc Springcourt, on va en parler juste après. Mais avant ça, est-ce que peut-être tu peux te présenter ? Voilà, qui est Théodora ?
Qui est Théodora ? C'est une très bonne question. Non, je cherche encore la réponse parfois. Mais je suis du coup la dernière de trois sœurs et j'ai grandi à Paris, à Belleville. J'ai fait des études d'art appliqué puis de design de chaussures, très précisément. Et ça fait maintenant trois ans que je travaille avec mes sœurs et que je co-dirige cette boîte familiale. À Belleville.
Donc Springcourt.
Donc Springcourt, entre autres, mais oui, Springcourt.
Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la marque, et donc je les invite à aller se rendre sur le site en même temps qu'ils nous écoutent ou sur le compte Instagram, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est Springcourt ? Donc c'est une marque de chaussures, mais encore.
Mais encore. Alors Springcourt pour nous, c'est vraiment, c'est une marque de chaussures qui a été créée par notre grand-père en 1936. Qui découlait déjà de tout le savoir-faire de plusieurs générations qui travaillaient la tonnellerie, puis l'étanchéité, donc le caoutchouc, donc ensuite les bottes en caoutchouc. Et donc il y avait ce savoir-faire de caoutchoutier et notre grand-père qui jouait au tennis formal, mais à l'époque les gens jouaient en espadrille, a décidé de travailler autour d'une chaussure qui serait vraiment dédiée à ce sport, et il a mis au point la Springcourt, la G2 notamment, et c'est une marque qui vit toujours, qui a connu plein de rebondissements, d'époques différentes. Depuis 1936, il s'est passé beaucoup de choses, et voilà, qui est encore sur pattes aujourd'hui.
Donc à quoi ressemble la chaussure exactement ?
Alors bah, notre modèle vraiment emblématique, la G2, c'est souvent elle est blanche, mais elle prend d'autres couleurs régulièrement, mais l'iconique est blanche. Et elle a une semelle en caoutchouc avec 4 trous sur les côtés et des deux côtés, qui sont des trous de ventilation qui font partie du brevet qui a été justement mis au point quand cette chaussure a été créée, qui servait à du coup aérer le pied et à rendre la chaussure plus confortable et moins odorante aussi potentiellement. Et le dessous de cette semelle est strié avec des stries qui vont dans plusieurs sens, et l'idée était de permettre une meilleure adhérence à la terre battue, mais de pouvoir déraper sans glisser. Et le reste est une tige en coton blanc, souvent très classique, avec des œillets et des lacets.
Et donc après, comme tu disais, l'innovation, c'est le caoutchouc, la semelle en caoutchouc, qui est du coup à une technique particulière, c'est ça, il n'y a pas de colle.
Alors, c'est venu un peu plus tard, plus dans les années 60, la technique de la vulcanisation directe. Mais c'est en effet une technique particulière qui est très peu utilisée aujourd'hui et qui permet de fusionner le caoutchouc encore brut, encore cru, à la tige ici en coton, et qui du coup permet de pas du tout utiliser de colle, de solvant. C'est assez magique. Okay. Donc on cuit le caoutchouc sur la tige, sur le coton.
Et ça, c'est une innovation uniquement Spring Court ou
non,
ensuite ça s'est développé
non. Ouais. Mais c'est une technique qu'on a utilisée beaucoup à partir des années 60 à peu près. Alors, cette marque ayant l'âge qu'elle a, il y a beaucoup de dates qui sont un peu floues et qui sont un peu ce qu'on a trouvé sur des documents et tout ça, mais il y a eu des trous un peu dans la transmission. C'est ce qu'on voit, et aussi on a une espèce de petite mascotte qui s'appelle le Soufflix, qui a été dessinée, créée dans les années 60 et qui correspond à justement à cette époque où on parlait de la vulcanisation, de la ventilation, et donc on associe aussi l'arrivée du Soufflix avec l'arrivée de la vulcanisation.
D'accord.
En gros.
Donc la Spring Court, telle que ton grand-père l'a créée en 1936, et celle qu'on a aujourd'hui en boutique, n'est pas forcément pile-poil la même.
Alors, ça ressemble beaucoup, quand ouais. même. Mais il y a eu, heureusement, il y a eu des petites évolutions techniques, mais elle est quasi la même.
Ouais, c'est vraiment un modèle intemporel.
C'est très proche. Et d'ailleurs, ce qui est assez génial, c'est que du coup, sur les images, les 4 trous nous aidaient vachement. C'est un marqueur très, très fort pour identifier une Spring Court immédiatement sur des images d'archives ou sur des photos où on n'est pas très sûr.
Ça, c'était spécifique
Bah, c'est tellement spécifique, c'est tellement une signature de cette chaussure que ça rend le modèle extrêmement identifiable et du coup très singulier, ce qui est très chouette.
Et du coup, est-ce qu'à l'époque, comme tu disais, donc c'était pour développer une chaussure pour jouer au tennis,
ouais.
les professionnels n'avaient pas de
À l'époque, les gens jouaient en espadrille.
Ok, vraiment ouais. tout le monde.
Notre grand-père jouait en espadrille. Bon, alors notre grand-père était très mauvais joueur, enfin un très mauvais joueur. Moi, j'imagine qu'il a créé cette chaussure en se disant que c'était à cause de ses chaussures qu'il jouait mal.
Okay.
Mais bon, ça c'est vraiment mon interprétation. Non, les gens jouaient en espadrille. Enfin, il y avait très peu de chaussures techniques. Et du coup, notre grand-père les a beaucoup fait tester par des joueurs. Il s'incrustait un peu dans les coulisses et dans les vestiaires et donner des paires en demandant bah est-ce que tu veux les essayer et tout.
Donc il allait genre sur Roland Garros des tournois de tennis
ouais. Et il filait des paires aux joueurs en disant dis-moi ce que t'en penses. Ça a commencé comme ça.
D'accord. Et donc est-ce que après les premiers joueurs de tennis ont adopté la Spring Court?
Bah très vite ouais, il y a eu des grands noms du tennis français et international qui ont porté Spring Court. On a eu même des collabs avec Pierre Barthez. Bon, c'était beaucoup plus tardif, mais il y avait une ligne Pierre Barthez. Les photos sont hilarantes, d'ailleurs, parce que bien dans leur jus. Mais il y a beaucoup de joueurs qui nous ont porté. Mais c'était devenu ensuite... En fait, c'était une chaussure très technique pour le tennis. Et dans les années 60, c'est devenu une chaussure que les gens portaient en cours de PS. C'est devenu une chaussure... ouais, d'école, enfin quasiment de pratique.
Oui, elle est sortie du côté hyper professionnel ouais, des joueurs de tennis pour devenir, arriver.
Exactement, juste une chaussure de sport portée par tous et beaucoup par les enfants. On a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, mais je mettais ça quand j'étais petit à l'école. » C'est très mignon d'ailleurs. Ouais. Et ensuite, c'est devenu beaucoup plus tardivement une chaussure un peu rebelle à porter dans un hors contexte. Enfin, elle a été détournée par des grandes figures.
Et comment elle est passée de la cour de récré ou de cour de PS à une marque de rébellion ?
C'est une bonne question. Une marque de rébellion. Enfin, elle a vraiment porté ça à un moment. Je pense qu'aujourd'hui, un peu moins, parce qu'il n'y a rien de plus classique qu'une paire de chaussures blanches aujourd'hui. Mais je pense qu'avec mai 68, il y a eu une espèce de vague où les jeunes générations détournaient des habits qui avaient une certaine fonction pour les porter différemment, comme le jean, comme le fait d'avoir les cheveux longs. Je regardais une interview qui parlait des Beatles où les gens disaient que c'était extrêmement choquant d'avoir les cheveux si longs et c'était des marques de rébellion. Et je pense que le fait de porter ces chaussures de sport d'un coup dans la rue, c'était ultra punk. Et on oublie aujourd'hui que ça se faisait pas, mais je pense qu'aussi cette chaussure, comme elle a été portée par beaucoup de John Lennon qui a vraiment adopté ces chaussures, qu'il s'est marié avec, il les porte sur Abbey Road, enfin un truc qui est... On a beaucoup d'archives de lui avec. Et aussi Jane Birkin qui était quand même une figure, j'allais dire, de mode absolue, mais aussi du détournement, parce qu'elle a beaucoup mis de jeans, elle portait des paniers, ses sacs à main, enfin il y avait un espèce de... d'une espèce d'innocence ou de rébellion, ou les deux d'ailleurs. Et comme ces deux personnalités nous ont beaucoup portés, je pense que ça a aussi porté cet esprit.
Et est-ce que tu sais comment elles ont découvert la marque à l'époque ?
Absolument pas. C'est un mystère total.
Ok, personne ne sait.
Non, mais on n'aurait jamais eu... Enfin, aujourd'hui, avec la manière dont les choses se passent, on n'aurait jamais eu les moyens que ces gens incroyables portent nos chaussures, mais... Je sais pas du tout, franchement.
En tout cas, là, ils les ont découverts par eux-mêmes, quoi.
Clairement, je sais pas, je me dis, John Lennon a dû faire une tournée en France et je sais pas. Enfin, j'ai aucune idée.
Passage Pivert.
Ouais, alors peut-être pas, mais les gens venaient acheter leurs chaussures ici. Il y a toujours eu un magasin d'usine.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plusieurs années, on avait remis le magasin, une boutique dans l'usine. Parce que les gens, quand ils étaient petits, enfin... Quand l'usine était en fonctionnement, jusque dans les années 80, les gens venaient acheter leur spring court sur place aussi. Quoi.
Et est-ce que du coup, ces égéries, John Lennon et Jane Birkin dans les années 80, ont vraiment insufflé un nouveau vent neuf, frais à la marque ou,
Je sais pas. C'est un peu plus tôt que ça, même, parce que c'est vraiment... Enfin, je trouve que ça coïncide un peu avec 60... C'est vraiment fin des années 60-70. Dans les années 80, la marque a subi plutôt... Enfin, a subi... Est plutôt allée vers du sport plus général. On a fait beaucoup d'académiques, beaucoup de... Des lignes de vêtements pour le sport... Véronique et Davina avec des couleurs pas possibles et des grands leggings et donc c'était ça a un peu suivi son époque aussi. Mmh. Ils se sont pas mal diversifiés, ils ont fait beaucoup de chaussures pour je sais pas, on a des chaussures pour tout, du badminton, des bottes en caoutchouc sont revenues. Enfin, il y a des archives hallucinantes.
Donc c'est redevenu une chaussure un peu plus EPS.
Alors la spring court, la G2 en elle-même est restée ce qu'elle était, donc les gens la portaient avec la fonction qu'ils voulaient. Mais on va dire que ils ont continué à creuser cette image de marque de sport. On va dire très sportswear, très adapté pour un peu tous les sports. Ils se sont vachement diversifiés. On a des catalogues énormes avec je sais pas combien de paires différentes pour différents sports, différents usages. Donc c'était très riche en fait.
Trop bien. Et comment la marque, du coup, la marque, elle a été fondée par ton grand-père en 1936. Ouais. C'est ensuite ton papa.
Alors non, parce que
il a repris, non,
non, parce que mon grand-père est mort très jeune. D'une tumeur foudroyante et mon père avait 2 ans. Okay. Donc c'est son frère, c'est le donc mon l'oncle de mon père qui a repris la main. Ils travaillaient déjà tous les deux. Donc Louis Théodore, qui a repris la main pendant des années. Et mon père a... Mon oncle a pris ensuite, pendant peu de temps, je dirais peut-être 2 ans, j'ai pas trop les dates exactes en tête, il a repris un peu la main et ensuite mon père avait vraiment envie de... Je crois qu'il y a eu un peu la question à un moment de s'arrêter et je crois que mon père avait vraiment pas envie de s'arrêter. Et du coup, il a repris la main entièrement. Il y a eu une période où ils ont déposé le bilan aussi, dans les années 80. Donc, ils ont déporté la prod qui était entièrement faite à Belleville, ici, au 5 Passage Pivert. Ils ont tout bougé en Vendée. Donc, ils ont vidé l'usine ensuite. Et je dis « ils » parce que ma mère a commencé... ils étaient tout jeunes mariés et je pense que ma mère a voulu l'aider et au fur et à mesure, enfin, elle s'est impliquée de plus en plus d'une manière assez naturelle et organique parce qu'elle voyait, je pense, mon père avec énormément de travail devant lui et ça s'est fait très naturellement en fait. Et donc ils ont, ouais, l'usine a été entièrement vidée, ce qui est quand même assez dingue parce que la prod était quand même énorme et il y avait énormément de machines. Et ils ont décidé de réhabiliter ce lieu en quelque chose de complètement différent. Enfin, à l'époque, l'idée du coworking, l'idée de bâtiment... déjà, en Belleville, c'était pas du tout sexy. Aujourd'hui, c'est le comble du bobo, mais Belleville, il y a 30 ans, c'était vraiment... Il y a un banquier, parce qu'ils ont dû emprunter beaucoup d'argent pour faire tous ces travaux et tout. C'était énorme. Il y a un banquier qui leur a dit « j'y mettrai pas mon chien ». Enfin, vraiment, les gens leur disaient, mais rasé, enfin, il n'y a aucun intérêt à faire quoi que ce soit avec ce lieu. Donc, je pense qu'ils ont vraiment bien fait. Ils ont eu beaucoup d'instinct.
Ils ont eu d'instinct.
Et ils étaient seuls avec leur instinct, je pense. C'était très courageux.
Parce que c'était quoi leur idée en délocalisant la prod en Vendée et en faisant des travaux
Je pense qu'eux-mêmes essayaient de trouver une nouvelle peau, une nouvelle vie à ce bâtiment énorme qui était très beau et qui avait. Beaucoup de potentiel, mais ils ont décidé de faire des grands travaux. Ils ont cassé l'usine à beaucoup de demi-niveaux. Parce que du coup, la production, c'est beaucoup de... C'est un seul grand étage sur un seul niveau. Ils ont travaillé avec un architecte et ils ont cassé tous les niveaux. Ce qui donne du coup des espaces très aérés avec pas mal de hauteur sous plafond. Et très agréable. Et donc, ils ont fait des travaux énormes pendant des années. Et l'idée, c'était du coup d'y placer des entreprises et aussi d'y faire vivre la photo, beaucoup. Et en fait, les tout premiers locataires de l'usine, ça a été l'agence Magnum. Donc, mon père qui était fou de photos.
Ouais, parce que ton père, il y avait une passion photo dans la famille.
Complète, depuis très jeune. Et donc, il a vu arriver Cartier-Bresson dans la cour, qui était un peu dingue quand même. Et ils se sont posés 9 ans dans les lieux. Et en fait, ça a beaucoup déterminé la direction que l'usine a pris parce que très naturellement, il y avait du coup tous ces photographes incroyables qui grenouillaient dans l'usine. Et du coup, il y a eu cette idée de faire des studios de prise de vue qui ont eu une vie incroyable et donc qui ont démarré. Et ensuite, ils ont eu un partenaire qui a été... pendant des années à l'usine. Là, on a repris la main en direct. Mais ça fait partie de l'histoire des lieux et ça a beaucoup marqué... ça marque l'usine.
Parce que c'était complètement indépendant de Springcourt ou quand même c'était
c'est géré par nos parents. Mais Springcourt, à ce moment-là, était sous licence.
OK. N'était pas géré par ton père.
Donc non, c'était toujours la marque... la marque appartenait toujours à la famille, mais c'était pas géré directement par eux. Ça a été géré pendant des années par les Roturo, le groupe Apple Shoes, qui ont amené la marque sur un positionnement beaucoup plus mode. Ils ont eu des idées hyper intéressantes. Ils avaient une vision beaucoup plus premium. Ils ont sorti un peu la marque de ce côté très sportswear justement. Donc c'est arrivé dans les années 90, pareil, j'ai pas exactement les dates. Honnêtement, j'étais pas née, ou j'étais pas très née en tout cas.
Pas très grande en tout cas, ouais.
Mais ils ont eu la marque sous licence pendant 25-30 ans quand même, donc ça a été beaucoup. Donc mes parents, pendant cette période-là, étaient vraiment affairés à faire vivre ce lieu.
D'accord.
Et c'est à ce moment-là aussi qu'ils ont créé le restaurant, qu'ils ont fait vivre ce lieu, qui est toujours en travaux aujourd'hui. Hein. C'est des travaux sans fin. On a quelqu'un qui est vraiment... On a un chef de chantier qui est embauché à plein temps.
Bah, peut-être pour se rendre compte, on se parle d'une usine de combien de mètres carrés
si on t'as... a 5000 mètres carrés. 5000
mètres carrés, ok. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, il y a toujours des entreprises qui vivent dans l'usine. Il y en a combien aujourd'hui, par exemple?
Je ne saurais pas te donner, je dirais entre 15 et 20,
okay.
À peu près. Ouais. Et puis ça tourne pas mal. Il y a des gens qui sont là depuis 30 ans, il y a des gens qui sont là depuis 6 mois, ça bouge beaucoup.
Ouais, donc ça a toujours été, depuis que tes parents ont refait ces travaux, ça court de créatif.
Ouais. L'usine s'est remplie petit à petit à partir de Magnum. L'usine a commencé à se remplir et ça a été très longtemps très dirigé autour de l'image, donc la production de photos. On a eu des gens qui faisaient de l'impression d'image. On a le SAV d'Hasselblad qui sont là depuis vraiment toujours. Et on a aussi de plus en plus de... On a des médias, on a Socialter qui ont aussi Tempura. On a la Déferlante. Je suis très fière d'avoir la Déferlante dans les murs, je trouve ça super. On a un label de musique qui s'appelle Begars, qui ont plein d'artistes incroyables. Il y a beaucoup... On a des architectes d'intérieur, des boîtes de prod, Walter Film. On a beaucoup de gens qui font vivre le lieu aussi avec dans un microcosme très créatif.
Ouais, c'est 100% tourné vers la création.
Alors 100% non, parce qu'il y a aussi... il y a tout et on essaye de pas être
Vous êtes pas trop sectaire. Vous sélectionnez pas...
Et puis on prend... c'est aussi... oui, ça se remplit d'une manière assez organique en réalité. Mais le monde appelle le monde, donc les boîtes de prod, quand elles tournent, nous disent « Ah bah, on a telle et telle personne qui sont intéressées ». Enfin, ça se fait d'une manière...
Forcément, par bouche à oreille.
Bouche à oreille, ouais.
Et à quel moment, toi, tes parents, ils ont switché de ce projet de gestion à 100% du lieu avec toutes ces entreprises à « On reprend la marque en direct », puisque c'est ce qui s'est passé à un moment.
C'est une très bonne question. Eh bien, donc on a eu ce long moment de licence avec les Roturo. On est passé avec d'autres licenciés. Et ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Je dis « on », je parle surtout de mes parents à cette époque, parce qu'on trouvait qu'ils emmenaient la marque pas là où on avait envie de la voir. Que la qualité de la production était vraiment dégradée et on y tenait beaucoup. Enfin, vraiment, on n'avait pas envie de voir cette marque perdre en qualité et en savoir-faire aussi. Et du coup, mes parents avaient une bonne soixantaine d'années. On dit, on reprend. Ce qui était très culotté. Peut-être un peu inconscient, je sais pas, mais moi j'étais toute jeune encore on a vu ça un peu de loin, on a observé la reprise en main et c'était en 2014-2016, un truc comme ça.
Toi, t'en gardes quel souvenir de cette époque où tes parents reprennent?
J'ai un souvenir de pas du tout aujourd'hui avoir réalisé ce qui se passait. C'est très flou pour moi, j'étais pas du tout là-dedans. Je suivais de loin sans vraiment comprendre.
Tu étais à l'école
Ah oui. j'étais au collège, lycée, je sais plus. Non, peut-être pas. Non, lycée quand même. Mais j'étais pas là-dedans, je comprenais pas très bien ce qui se passait. Mais ça a été une sacrée aventure. Et je pense que leur mission, c'était vraiment de préserver la marque, de pas entacher son image, d'essayer d'être sûre qu'elle soit pas... abîmé, que ce qui avait été transmis depuis ce temps était préservé, la qualité des chaussures, que les gens retrouvent le modèle qu'ils aimaient.
C'est de voir que la marque a commencé à être pas forcément bien gérée par ce second licencié qui certainement leur a donné envie de se dire... Là, on touche à notre héritage et du coup, il faut qu'on reprenne les choses en main.
Bah, je sais pas si c'est oui, mais ouais. Et puis, je pense qu'il y avait un peu ce fantasme aussi de reprendre la main sur sur cette marque qu'ils aimaient tant et qu'ils avaient envie de gérer eux-mêmes, quoi. Mmh. Ce qu'on peut comprendre, mais c'était peut-être pas en full conscience des enjeux de ce que c'est que diriger une marque inscrite dans quand même un univers de mode aujourd'hui. C'est des contraintes qui sont énormes. Les choses bougent tellement vite, la communication, le marketing, la manière dont la manière dont les gens perçoivent les choses, le fait aussi que tous les deux jours il y a une nouvelle marque qui se tous les deux jours il y a une nouvelle marque de sneakers qui se crée, c'est assez dingue d'ailleurs. Et même maintenant, les marques qui faisaient pas de forcément de chaussures se mettent à en faire plus ou moins bien, je trouve, mais bon, ça, c'est, je suis sûrement très biaisée sur le sujet, mais c'est assez dingue. Donc le marché ultra concurrentiel et en même temps a jamais été aussi gros, donc c'est.
Et tes parents peut-être n'avaient pas conscience de ça.
Je sais pas s'ils en avaient peut-être conscience, s'ils avaient envie d'essayer. Ils s'en sont pas si mal sortis en réalité parce que la marque est toujours debout. Mmh. Ils ont absolument pas abîmé l'image de la marque et c'était déjà un sacré challenge. Donc s'ils s'en sont bien sortis, c'était juste un défi énorme. Et ma sœur aînée Florence les a rejoints un peu pendant cette période, pendant une dizaine d'années.
Okay.
Et après, elle a un peu pris un peu plus de large par rapport à tout ça, parce que je pense qu'elle en avait besoin. C'est quand même un joli trou noir, hein, tout ça.
Ouais, quand tu mets le doigt dedans,
ouais, vraiment.
T'es aspirée par le projet.
C'est, ouais.
Elle gérait quelle partie avec tes parents?
Elle travaillait avec eux sur une manière assez globale. Elle s'est pas mal penchée sur justement l'image et tout l'aspect marketing et image de la marque. Mais ils étaient encore vraiment aux manettes. Et depuis 3-4 ans, avec ma sœur Laura et moi-même, on a commencé. Enfin, ma sœur est arrivée d'abord. Enfin, Laura est arrivée avant. Et elle a commencé à vraiment se pencher sur l'aspect plus commercial des choses. Enfin, elle est vraiment venue un peu en renfort là-dessus. Et les choses se sont fait petit à petit. C'est un trou noir, vraiment.
Ouais, c'est assez naturellement, j'entends que chacune de vous, chacune à votre époque, vous avez commencé à mettre un peu les pieds dedans avec vos parents, et puis...
Bah, en fait, c'est plus... Oui, on se dit au début qu'on va donner un coup de main, et puis en fait, on est attaché à la marque, on est attaché aux gens qui travaillent pour elle, et du coup, naturellement, on s'implique de plus en plus, et puis au bout d'un moment, on se retrouve full.
Je veux dire, ça s'est pas fait d'un coup, non. Pouf,
fait. Parce que du coup, Laura a commencé. Et 6 mois après, elle m'a dit, ça serait peut-être pas mal que tu viennes donner un coup de main sur certains trucs. Et donc, j'ai commencé avec des petites missions. Moi, j'étais en freelance, j'avais des projets à côté. Et petit à petit, on s'est fait vraiment... Moi, j'appelle ça un trou noir. Je vois pas d'autres...
Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est que les choses sont quand même bien faites. C'est que vous êtes trois sœurs et vous avez toutes les trois quand même des casquettes différentes avec des expertises un peu différentes.
Bah oui, parce qu'on vient d'univers très différents en même temps, on connaît toutes les trois très, très bien cette marque. Bon, avec nos prismes à nous, hein, donc ils sont toujours subjectifs, bien sûr, mais on a vu cette marque évoluer, on connaît son histoire par cœur, on a... respirer du caoutchouc depuis toujours. Il y a un truc qui est un peu dans nos veines aussi. Mais il faut se méfier de ça, d'ailleurs, parce que ça peut biaiser nos visions, parfois. Mais naturellement, oui, moi, j'ai pris le pôle plus créatif. Aujourd'hui, je m'occupe vraiment de la DA. Et ma sœur Laura est plus sur la partie admin, financière et aussi développement en général. Et Florence, qui est un petit peu plus extérieure, mais quand même très impliquée, participe beaucoup à la partie image et communication aussi. Donc on cherche l'équilibre, c'est un équilibre
permanent
à trouver.
À trouver, ouais.
Mais on n'est pas seul, hein. On a quand même des belles équipes qui travaillent avec nous.
Il y a combien de personnes aujourd'hui qui travaillent?
On est une grosse quinzaine,
okay.
En gros. Mais on reste une très petite équipe par rapport à nos ambitions aussi. Donc on est en phase de développement malgré tout. Mais c'est particulier parce que cette marque, c'est une vieille dame qui a l'air d'avoir 12 ans. Enfin, il y a une espèce de mélange d'une vieille âme qui a vécu beaucoup de choses, qui a beaucoup, un gros passif et beaucoup d'archives, beaucoup d'histoires, beaucoup de... de choses à raconter et en même temps qui doit faire peau neuve un peu tout le temps, comme toutes les marques toujours, mais qui doit aussi parler à une audience jeune avec les enjeux de son temps. Donc on se questionne vraiment, mais on a la chance d'avoir aussi récupéré quelque chose qui, de base, avait une ADN tellement clean, une chaussure extrêmement simple et en même temps très complexe. C'est assez dingue d'ailleurs. Moi, je m'émerveille toujours de cette semelle. C'est très complexe en fait. Elle est vraiment très particulière, avec très très technique et en même temps, elle a l'air extrêmement simple. Donc, c'est quand même très élégante et en même temps, pardon. En même temps, elle porte quelque chose d'assez vintage. En même temps, elle est très contemporaine. Et du coup, il faut qu'on la raconte avec justesse. Et notre grand-père nous l'a créée avec déjà cette particularité d'être unisexe. C'est quand même assez génial, parce que dans les années 30, c'était pas encore...
C'était pas l'évidence
de créer quelque chose porté par tout le monde et porté par des enfants. Enfin, c'est dingue, en vrai. Moi, je me suis toujours émerveillée de porter les mêmes chaussures que ma grand-mère. Avec chacune nos styles, j'espère, bien, bien distincts, mais il y a un truc qui est quand même... Elle porte un truc assez incroyable, cette chaussure. Et donc, il faut respecter ça, il faut le raconter avec justesse, et on se pose beaucoup de questions.
C'est tout l'enjeu de la transmission aussi, ouais. J'imagine, qu'il y a eu entre la génération de ton grand-père et de ton père, avec ton oncle entre les deux, puis maintenant entre tes parents et vous, parce que tes parents maintenant sont encore, j'imagine, dans les discussions, mais...
Bon, ils sont extrêmement impliqués... d'un point de vue émotionnel, mais en opérationnel, on a vraiment complètement
repris.
Et c'est toujours... En fait, on a une chance énorme de pouvoir discuter avec eux de comment les choses se faisaient avant, de cultiver une vraie forme de transmission, parce que c'est super précieux, et que je passe ma vie à demander à papa, ça c'est quelle date, ça c'est sorti quand, de demander des précisions sur... il a un vrai savoir-faire technique aussi, donc c'est hyper intéressant de pouvoir récupérer toutes ces infos si précieuses et en même temps toujours se remettre en question sur la pertinence aujourd'hui de tel et tel choix, de telle approche, comment on gère notre sourcing, comment on gère nos matériaux. Aujourd'hui, le caoutchouc, c'est un matériau incroyable, mais ça pousse sur les tropiques, donc ça nous force à avoir... notre production est faite en Espagne et en Thaïlande, et c'est en pleine conscience parce que on trouve que c'est des productions qui sont clean et on est allé voir, on s'intéresse vraiment à la source des choses, mais c'est questionnant tout ça. Donc on essaye de trouver le juste milieu entre l'héritage de ce produit et tout ce qu'il apporte, et en même temps, est-ce qu'aujourd'hui ça a toujours du sens ou pas? C'est très difficile. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'avis sur la question.
Ouais.
Parce que les gens adorent donner leur...
Des gens qui sont extérieurs, tu veux dire, à la marque.
Bien sûr, ça, on a des leçons toute la journée de gens qui en fait, tant mieux, parce que si la marque n'était pas intéressante, on n'aurait pas d'avis extérieur. Mais c'est faire le tri tout le temps. Et essayer de trouver le juste... Et c'est difficile, mais intéressant.
Comment tu le vis, toi? Je sens que c'est aussi un peu une responsabilité à la fois de préserver cet héritage, en même temps, comme tu dis, de le positionner dans son actualité, dans son époque, et du coup, de se questionner sur tout le funnel de production, de marketing, de communication. Comment, toi, tu le vis au quotidien? Comment c'est vécu peut-être avec tes parents et tes sœurs?
Des belles nuits blanches. En vrai, c'est passionnant. C'est une chance énorme aussi. On a beaucoup de chance de pouvoir faire vivre cette marque. Ça aurait été peut-être moins fun si ça avait été une entreprise de boîte de sardines. C'est une marque qui me passionne et je passe ma vie à découvrir des trucs nouveaux et à changer d'avis sur... je change pas trop d'avis non plus, mais un peu quand même. Mais c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions avec mes sœurs, parce qu'en fait, si on n'a pas des visions qui s'alignent, on ne peut pas aussi transmettre à nos équipes. On écoute aussi beaucoup les gens avec qui on travaille, parce qu'ils ont un regard qui est frais aussi. On a conscience du fait qu'on est un peu dans la marmite et que du coup, on a besoin de beaucoup se remettre en question. Et c'est faire des choix un peu durs, parfois. On a arrêté de faire des collections il y a 3 ans. C'était difficile comme choix. C'était un vrai parti pris. Mais on trouvait que ça avait du sens par rapport à la réalité du marché, aux enjeux écologiques. On est trois jeunes femmes concernées par ce qui se passe, par comment le marché se développe ou pas. Et en même temps, concernées par le fait de faire vivre cette marque, et on a envie de la voir vivre encore longtemps. Donc on cherche le juste tout le temps. Mais oui, c'est lourd. C'est lourd. Il y a une forme de... C'est pas un job où je m'arrête le soir et je pense à ma soupe.
C'est
prenant, et c'est sûr que le fait que ce soit quelque chose qu'on nous a transmis, déjà c'est une chance énorme. C'est aussi questionnant. C'est une réalité. On est ultra privilégié d'avoir récupéré cette marque, mais ça aurait pu se faire différemment. Donc on a envie de le faire bien, parce qu'il y a un peu cette responsabilité.
Tu le vois comme un devoir, toi, ou
Je vois un... J'essaye de pas le voir comme un devoir, parce que je pense que ce serait pas une bonne chose, mais ça fait aussi un peu partie de ça. C'est difficile. Je sais pas comment... Je le vois comme une chance et comme un devoir un peu aussi. Mais j'essaye de me dire que le jour où ça devient trop un devoir, c'est qu'il faut vraiment arrêter aussi. On se pose vraiment la question, est-ce qu'on est les bonnes personnes pour faire ça? Est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que d'autres gens feraient mieux vivre la marque? Sûrement, d'ailleurs, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ça. Maintenant, aujourd'hui, on a l'impression qu'on amène quelque chose qui fonctionne et qui a du sens. Le jour où on n'est plus d'accord avec ça, on s'arrête, quoi.
Et après, c'est aussi l'identité de Springcourt, c'est que c'est une entreprise familiale. Ça fait résonner, j'imagine, les décisions d'une certaine manière depuis du coup presque 90 ans, le fait que ça soit géré comme ça dans un groupe quand même assez réduit. J'imagine que ça a aussi un impact sur vos salariés d'être géré par deux, trois sœurs.
Trois femmes, ouais. C'est à eux qu'il faut demander.
Ouais,
déjà, on a une chance énorme de ne pas avoir d'actionnaires. On est nos propres actionnaires, on est tranquille, nos décisions, on peut prendre des décisions énormes en une heure autour d'une table si on est tous alignés, et que ça a du sens et qu'on est OK. Si on a des décisions importantes et lourdes à prendre, on les prend en pleine conscience et on n'a pas de pression extérieure. Ce qui rajoute une forme de pression aussi en réalité, parce que du coup, on fait nos erreurs... Comme des grandes. Mais c'est une chance énorme. Enfin, honnêtement, quand on voit le marché aujourd'hui, on est un peu des ovnis. En même temps, on est très contente de l'être, quoi.
Ouais, d'être une marque cool. À bientôt 90 ans, il n'y en a pas 50, quoi.
Ouais, mais en même temps, enfin, on essaye aussi de... C'est tout l'enjeu, c'est de ne pas ne jouer que sur ça. Mm-hmm. Parce que moi, ce n'est pas parce qu'une marque est vieille que j'ai envie de la porter, enfin, ça m'intéresse pas, et je pense que les gens ont besoin de plus que ça, donc on essaye d'avoir des propositions qui ont du sens et qui parlent aux gens aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est puissant, mais en réalité aujourd'hui, les gens aujourd'hui consomment des trucs qui je sais pas à quel point ça a un impact en réalité, parce qu'on reste une marque relativement niche, en tout cas pour l'instant. Et je sais pas si ça transforme vraiment les choses pour les gens, pour l'instant en tout cas.
En tout cas, la transmission dont tu parles, certainement que, comme tu le disais, il y a des gens qui vous ramènent que leurs enfants, leurs petits-enfants portaient les chaussures quand ils étaient petits, ou qu'eux-mêmes portaient les chaussures quand ils étaient petits. C'est du coup un produit qui traverse les générations,
ouais.
Qui peut aussi se transmettre... De mère à fille, de père à fils. Donc il y a aussi, je pense, une sensibilité, une émotion que tu as à travers une histoire d'une marque il n'y a pas 10 ans, quoi.
Je pense, ouais.
C'est particulier.
J'espère. Non, mais c'est sûr que c'est hyper touchant quand on a des gens qui viennent nous dire mais j'adore ces chaussures. Enfin, on reçoit parfois des témoignages qui sont super touchants et on sent que c'est bien au-delà de. Ça parle bien au-delà d'une paire de chaussures. Enfin, c'est des vraies Madeleine de Proust pour beaucoup de gens. Et j'espère que ça va continuer à le devenir, que les enfants qui portent des Springcourt aujourd'hui s'attachent à la marque. Ouais.
Et donc ça a été, donc là, si on revient à ce que tu disais, vous avez arrêté les collections. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur ça? Comment ça a été votre, un peu votre première grosse action quand toi et tes sœurs avaient repris un peu les rênes de la marque? Quel constat vous avez fait quand vous êtes arrivé vraiment dans le jus du réacteur? Voilà, quelles ont été les étapes pour cette décision?
Déjà, c'est tombé en plein Covid. Donc moi, je suis arrivée en plein Covid. Quand on a vraiment commencé à travailler là-dessus. Et en fait, curieusement, ça a aidé. Parce que du coup, ça a mis cette espèce de grand stop sur le marché international, dans la vie des gens, d'une manière générale. Et en fait, ça nous a aidé. Et on s'est surtout rendu compte que produire des collections tous les 6 mois, avec, je sais pas, une vingtaine de pieds, qui, en fait, sont un petit peu la même chose que la saison d'avant, mais pas vraiment. Mais les gens, en fait, retournaient toujours à l'essentiel, c'est-à-dire nos basiques, la jet de blanche, la jet de bleu marine. Enfin, il y avait une espèce de d'évidence à la simplicité. Et du coup, on s'est vraiment dit, bon, en fait, on va donner aux gens aussi ce dont ils ont envie et sûrement ce dont ils ont besoin, parce que c'est un peu marcher dans un système qui nous convient pas que de produire des chaussures pour produire des chaussures. C'est pas intéressant. Donc on a mis un gros stop. On s'est vraiment penché sur l'idée d'avoir des familles de permanents, parce qu'on s'est dit on reste aussi soumis quand même aux lois du marché. Donc on a créé des familles de permanents qui répondaient à des besoins très simples, d'avoir des couleurs simples et efficaces, des matériaux bien sourcés, de bonne qualité, des couleurs, des choses très portables, très simples, de mettre aussi en avant les différentes couleurs de caoutchouc, tout le savoir-faire autour du caoutchouc, on a vraiment aussi voulu le valoriser. Et donc on a posé petit à petit les bases, on a sorti en fait petit à petit les permanents saison par saison, mais qui venaient s'additionner. Donc c'est pas des choses qui sont obsolètes. On est un peu effaré par l'obsolescence programmée des choses en général. Puis quelle idée de dire qu'un vêtement 6 mois après est périmé entre guillemets, c'est absurde. Et donc on a voulu faire cette proposition. Sachant qu'on est aussi vendu à l'autre bout du globe, il fallait aussi qu'on ait une proposition permanente hivernale et estivale. Enfin, on avait vraiment besoin des deux. C'était aussi vraiment cette volonté de mettre l'accent sur le cuir, parce qu'on a un vrai savoir-faire du cuir. On a lancé les Spring Cuir. C'était quand même hilarant comme nom, d'ailleurs. Avec des grosses campagnes sur les culs de bus dans Paris, dans les années 80. C'était aussi un peu pour réagir aux nouveautés qui sortaient sur le marché. Donc il y a eu toute une adaptation et un développement. Donc on fait quand même du cuir depuis les années 80, même si on est toujours vraiment perçu par beaucoup comme une marque de toile. Mmh. Et à juste titre, parce que ça reste notre modèle emblématique, mais on a un vrai savoir-faire sur le cuir. On a un sourcing assez dingue. On a des produits, on a des cuirs en agneau plongé qui sont du cuir qu'on utilise normalement pour la ganterie, sans doublure, avec une qualité, une main incroyable. Et donc on a un vrai savoir-faire à défendre sur le cuir, ce qui nous positionne aussi comme une marque premium, parce qu'on a ces offres qu'on trouve nulle part ailleurs sur le marché de la sneakers. Donc il y a une vraie un vrai travail sur le sourcing, sur la manière dont la chaussure est construite, sur la manière dont elle est portée ensuite, sur l'usure aussi. Une bonne chaussure, c'est une chaussure qui vieillit bien quand on la porte. Donc il y a un gros travail de réflexion autour même de la couleur. Quelle couleur va bien vieillir? Comment elle va bien se porter? Est-ce qu'on va trouver une belle patine? Enfin, je trouve que c'est vraiment des gages de qualité sur une chaussure. Sur la toile, c'est un petit peu plus dur à maîtriser, surtout sur une toile blanche. Mmh. Mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment très sale aussi. Qui la porte très sale. Mais donc, ces phases de vie auxquelles on doit réfléchir. Et je trouve que ça, c'est une approche très premium d'un produit.
Ouais, complètement. Vraiment, le positionnement de se dire que t'achètes un produit qui va durer des années, qui va aller avec toutes tes tenues, qui va éventuellement passer différentes époques dans ta vie.
Oui, qui va potentiellement même se transmettre parce que cette paire va très bien. Et si on prend soin de ces chaussures, enfin... qu'elles peuvent durer vraiment longtemps. Et c'est ça aussi la, un peu la lutte contre l'obsolescence programmée. Mmh. C'est vraiment réfléchir à des produits qui s'inscrivent dans une vraie durabilité en termes de qualité, de résistance, de confort aussi. On en parle peu, mais c'est quand même des chaussures extrêmement confortables.
Ouais.
Et ça rend les choses durables aussi. On porte plus longtemps des chaussures dans lesquelles on est bien.
Complètement.
Donc on a été réfléchir autour de toutes ces contraintes, aussi la contrainte d'être toujours perçue comme unisexe. C'est très important pour nous. Parce que moi, je ressens ça comme vraiment quelque chose qui a été, pardon, qui a été posé par notre grand-père. Donc il y a un truc qui est à l'origine de cette chaussure. En fait, on est revenu à la source, plus ou moins. On est juste... on a enlevé les trucs qui nous paraissaient superficiels, quoi. Donc c'est un peu ça en fait, j'ai l'impression. C'est comme il n'y a pas très longtemps, quand on fait des travaux dans l'usine, moi j'ai tendance à enlever des couches pour aller retrouver les trucs qui sont en dessous. C'était un peu la philosophie en fait, parce que finalement, évidemment qu'il y a des choses à faire évoluer, et des choses qui doivent évoluer et changer, mais il y a aussi beaucoup de choses qui étaient très saines à la base, et du coup c'est aller chercher ça.
Donc c'était retrouver la simplicité du produit, bien fait tel qu'il a été créé par ton grand-père, et après trouver des modèles intemporels qui fonctionnent pour toute personne. Très bien.
En gros, très c'est bien. Ça.
Donc ça c'était la première grosse décision.
La première grosse décision, ouais.
De vous trois. Et quelle a été la suite parce que donc il y a évidemment les intemporels, mais si on regarde votre site, il y a aussi des modèles plus colorés, des capsules, des éditions limitées. Ça, tu peux nous en parler comment ça fonctionne?
Complètement. C'était vraiment le pendant, c'est que du coup on peut pas non plus ne rien sortir jamais, c'est impossible. Donc on a décidé de réduire considérablement la sortie, les sorties qu'on faisait par saison. Et de plutôt proposer des éditions limitées ou ce qu'on appelle des capsules chez nous, qui correspondent à des éditions limitées, mais où on pousse vraiment plus le design et l'histoire qu'on raconte, et d'aller chercher des histoires qu'on raconte, des univers, des choses qui nous inspirent, qui nous paraissent être reliées à la marque. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez nostalgique, donc souvent, c'est empreint d'un peu de nostalgie, parce que je trouve que ça a aussi du sens, c'est que... Je vais beaucoup puiser dans les archives parce que j'ai cette chance de pouvoir d'avoir accès à tout ça, et du coup on s'inspire beaucoup de tout ça. Et régulièrement on sort des collaborations aussi parce que c'est intéressant d'aller se fusionner à d'autres univers et d'aller raconter d'autres histoires avec d'autres gens qui ont aussi un regard pertinent et riche sur la marque. Donc on fait pas mal de collabs. Enfin, on est très sélectif sur nos collabs parce qu'on reçoit beaucoup de demandes.
Ouais, comment ça fonctionne justement? Est-ce que c'est vous qui allez chercher des créatifs, des designers, ou est-ce qu'on vient vous chercher?
On a la chance de pas avoir besoin de le faire. Il y a beaucoup de gens qui nous approchent, mais
Et ça peut être des créatifs dans n'importe quel milieu, ou c'est forcément des gens qui sont déjà dans la chaussure?
Alors il y a des créatifs d'un peu de n'importe quel milieu, mais là récemment on a vraiment fait des collabs plutôt avec des marques. Mais c'est vrai que moi j'ai été assez dérangée pendant un moment par des gens qui nous contactaient pour qu'on soit un peu leur porte-étendard, pour poser leur logo sur une jolie chaussure blanche et que ça soit la chaussure de la saison. Et je pense que cette chaussure a beaucoup plus à défendre que ça. Et du coup, c'était pas du tout l'esprit dans lequel on avait envie de collaborer. Et en fait, surtout, la G2 blanche, elle est parfaite comme elle est. Si on rajoute un logo... de n'importe qui d'autre, voire même le nôtre, ça a aucun intérêt. Enfin, donc il y avait vraiment cette volonté d'aller vers des gens qui ont des vraies propositions et qui apportent vraiment quelque chose, qui veulent vraiment apporter leur univers aussi. Mmh. Parce que du coup, on travaille avec des gens qui ont des univers qui nous parlent.
T'as quelques exemples du coup de collabs qui ont marqué?
Je dis qu'on a travaillé qu'avec des marques, mais l'étiquette, c'était pas une marque. Pardon, c'est un magazine. Enfin, c'est une édition ils nous ont approchés et ont trouvé que leur projet était intéressant. Et du coup, une des collabs les plus récentes qu'on a faites, c'était avec l'étiquette. Pour l'enfant, on a collaboré avec Belle Rose. Je sais pas si j'ai le droit de dire la prochaine collab. Peut-être que c'est un peu tôt. Il y a une jolie collab qui arrive dans quelques mois. Mais dans le passé, je crois qu'on était la dernière collab de Colette.
Ok.
Donc, chouette. On a collaboré plusieurs saisons avec Agnès B.
Donc, c'est vraiment quelque chose maintenant qui rythme, qui permet d'avoir quelques modèles un peu différenciants par rapport aux modèles permanents.
Oui, exactement. Ça permet de pousser des univers. C'est intéressant, mais on essaye toujours de faire ça avec un vrai apport parce que sinon, les gens trouvent ce dont ils ont besoin dans nos permanents.
Bien sûr. Et donc c'est des co-créations avec...
On pousse ce côté-là. Moi, j'y tiens, parce que je trouve que c'est toujours un peu dommage quand c'est juste des choses toutes faites. Et j'aime bien quand on pousse un peu la réflexion. Après, parfois, il y a des choses qui tombent un peu sous le coup de l'évidence. Et du coup, ça va vite. Ça peut aller très vite. Mais il faut qu'il y ait un peu plus que juste... on fait une collab pour faire une collab et faire... parler de nous et mettre un logo sur une toile blanche, enfin, c'est un peu... Et il y a tellement de collabs, il y a tellement de marques qui font des collabs tout le temps, on est un peu submergé et aussi c'est... d'être respectueux vis-à-vis des gens et quand on leur propose quelque chose, c'est qu'il y a eu du travail derrière, il y a une proposition, il y a une histoire qui se raconte, ça leur plaît ou pas ensuite, mais produire pour produire, c'est dommage, mais en même temps, on est encore éduqués à ça. Enfin, et parfois, moi, la première, en tant que consommatrice, c'est difficile de se discipliner, j'allais dire. Parce que c'est un peu une forme de discipline. C'est aller chercher les choses là où elles sont justes et pas justes pour être dans une espèce de train infernal de consommation. Mais c'est pas facile parce qu'on est un peu abreuvé de ça.
Carrément. Et donc ça, c'est la partie collab. Et ensuite, il y a la partie capsule, là, qui est vraiment 100% Spring Court, si je comprends bien, où là, tu vas plus, du coup, chercher un peu dans les archives.
Ouais, raconter des histoires qui parlent de la marque un peu plus directement. On a une capsule qui sort en juin, qui vraiment raconte une histoire de transmission. Ça passe par des détails, hein. C'est jamais des choses trop, trop, trop littérales. Mais elle met pas mal en avant l'usine, notamment, parce que pour nous, c'est vraiment un lieu de transmission. De cette idée de... elle est faite en lin. Nous, on a travaillé avec un producteur de lin belge, qui a aussi une très vieille maison qui s'appelle Libeco. Très belle maison. Et j'avais envie de travailler autour du lin, parce que c'est souvent... Les draps de maison qui sont transmis un peu de génération en génération, souvent sont en lin. En tout cas, ça m'évoquait ça. Et aller travailler autour de cette idée d'un peu de surpiqûre, des choses un peu cousues main. C'est un peu ce ressenti, parce que moi, c'est ma grand-mère qui m'a appris à coudre. Et il y avait un peu c'est un peu un hommage aux grand-mères dans ma tête. Okay. Et on a... Au dos de la chaussure, on a représenté l'usine. Il y a un dessin de l'usine parce que, justement, c'est un lieu de transmission. Et que c'est l'ancrage aussi de... Comme une espèce de maison de famille. Il y a un peu cette idée ou de lieu où les choses se transmettent. Qui parle de tout ça. Donc c'est très perso, en fait, comme capsule. Mais j'espère. Les gens le sentiront pas. C'est pas l'idée. Après, in fine, c'est que ça plaise aux gens.
Ouais, tout ça, tu vas pas forcément l'utiliser comme message de communication.
Si on me demande d'expliquer d'où ça sort, je peux le raconter sans problème.
Vous n'allez pas, en tout cas, imaginer un univers autour de ce message de la transmission.
Subtil, il sera là quand même.
Il sera quand même
le
là,
message.
Ouais.
L'idée, c'est que le message soit transmis. Mais
tes équipes y veilleront.
Oui.
Pour s'assurer que
inquiète.
Le message est bien passé. Mais c'est ça, en tout cas, l'idée des prochaines pièces qui sortiront là.
Oui, oui, oui. Et d'autres encore ensuite qui vont être un peu plus des rééditions d'archives, des archives avec lesquelles moi j'ai vraiment grandi sous les yeux et que j'aimais trop. Et je suis très heureuse de pouvoir les faire revivre, en tout cas essayer.
Oui, en tout cas, on sent que tu prends plaisir à te plonger dans les documents d'archives, les photos, j'imagine, d'époque.
Je suis très nostalgique comme personne, donc j'adore les vieux trucs. Mais je vais beaucoup dans les caves, je ressors pleine de poussière, j'adore fouiller. Et j'ai la chance de pouvoir le faire. En vrai, c'est une chance énorme.
Enfin, oui, c'est pour ça que je disais aussi le fait d'avoir une marque si ancienne. T'as du coup une montagne de documents à consulter qui te permettent ensuite d'inventer des nouvelles pièces, d'inventer une nouvelle histoire et en même temps d'être dans son actualité, dans son époque.
Bah, essayer en tout cas. Essayer, faire au mieux. Mais après, c'est vrai que comme elle a traversé tellement d'époques différentes, on peut aller dans tellement de périodes, de styles. Enfin, vraiment, cette marque est très riche. Parfois, même bon, trop, je ne sais pas si on peut être trop... on peut avoir trop d'archives et c'est une richesse énorme. Mais,
en tout cas, il faut l'utiliser à bon escient.
Il ne faut pas perdre les gens dans trop de choses. Donc, on essaye de clarifier le message et de... Ouais, de pas perdre les gens.
Et comment justement là depuis donc le Covid où tu as vraiment rejoint la boîte que vous avez repositionné aussi la marque, que vous avez remis en place ces quatre familles de modèles permanents, comment les clients réagissent, comment vos fidèles
les fidèles
fans de la marque ou en tout cas peut-être des nouveaux clients, comment vous avez ressenti ce changement?
Bah, j'ai l'impression que le signal commence à passer. Déjà le fait de devoir arrêter les collections, ça a été quand même ma sœur qui était du coup beaucoup plus en lien avec les gens qui nous distribuent et les acheteurs, il y a eu un énorme travail pédagogique de la part de notre équipe commerciale, du coup vraiment de devoir expliquer pourquoi dans quel but, quel était le message derrière. J'ai l'impression que ça commence à passer. J'ai l'impression que les gens commencent à vraiment voir l'intérêt de ça. Je pense que les gens aussi redécouvrent la marque. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on avait un peu disparu, qui nous retrouvent, qui apprennent qu'on est trois sœurs à la tête du truc et qui se disent ah, en fait ça reste une histoire de famille. Il y a des gens qui trouvent ça cool, je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça peut-être moins cool, mais c'est ouais, en tout cas comme on essaye de préserver la marque, on la perd pas, donc il n'y a pas un rebranding complètement absurde où on partirait dans un univers steampunk
Un jour.
Qui perdrait les gens, qui sait. c'est pas dans les plans. Non, mais c'est vrai que nous, on a une volonté depuis qu'on s'est remis les mains dedans, qu'on s'est mis les mains dedans, de positionner cette marque d'une manière beaucoup plus premium. Aussi parce que ça nous permet d'avoir l'exigence d'un savoir-faire qu'on trouve et d'une qualité de prod. Sur lesquels on n'a vraiment pas envie de transiger. Donc c'était un repositionnement très naturel et en même temps un peu obligatoire pour nous. Donc qui vient par étapes, hein, qui se fait pas en un jour. Mais il y a vraiment cette volonté et je pense que dans l'approche aussi, dans la manière dont on communique les choses, dans la manière dont on pense les modèles qu'on sort, les éditions, dans les collabs qu'on crée, on envoie ces messages petit à petit. Donc, je pense qu'ils commencent à être perçus.
Toi, comment tu... Enfin, comment est-ce que la marque, elle était perçue pour toi avant que vous arriviez dans l'aventure? Justement, quel était son positionnement historique et quel positionnement vous avez envie d'avoir maintenant et dans les prochaines années? Justement, quel est ce changement que vous opérez?
Bah, déjà, c'est sûr qu'à l'origine, c'est vraiment une marque très populaire. Enfin, c'est une marque de sport. C'était perçu vraiment comme on était un équipementier sportif. Il y avait vraiment cette catégorisation.
Et... On pouvait vous acheter d'ailleurs dans des grandes
oui,
surfaces,
complètement.
C'est ça?
J'ai quelqu'un qui m'a dit, il y a quelques semaines, il m'a dit « je vous ai acheté chez Prise Unique ». Ce que je trouve assez incroyable comme phrase, sachant que Prise Unique, c'est du coup l'ancien Monoprix.
Oui.
Mais ça veut tout dire en fait.
C'est une chaussure du quotidien.
C'était vraiment une chaussure du quotidien,
très classique,
extrêmement simple. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, je pense qu'il y a eu une montée en gamme, en qualité aussi, parce que naturellement, on perd pas en qualité, en savoir-faire, et que peut-être que les autres marques qui arrivent sur le marché sont moins qualies, et du coup, naturellement, on se place en réalité, on a peu changé. Mais comme on garde on garde une expertise. Les gens qui arrivent tout frais et qui n'ont pas cette expertise produisent des choses moins quali. Et donc, ça nous place naturellement au-dessus.
En tout cas, aujourd'hui, vous n'êtes plus vendu chez Monoprix.
On n'est plus vendu chez Monoprix.
Vous êtes vendu en direct dans vos boutiques.
On est vendu en direct. On est positionné dans 3 spots différents dans Paris en propre. On est rue de Poitou, dans le Marais, à Saint-Germain, rue des Canettes. Et on a toujours notre boutique d'usine, notre flagship à Belleville. Ce qui aussi témoigne d'un positionnement très premium, parce que c'est des quartiers dans lesquels on trouve... un certain type de boutique et une certaine offre. Donc ça avait du sens pour nous de se poser là. Mais oui, je pense qu'on a vraiment cette volonté de monter en gamme au fur et à mesure, notamment parce que ça nous permet de préserver le savoir-faire et la qualité. Mais je pense que la marque a connu quand même une période un peu de creux en termes de notoriété. Et donc on revient petit à petit, mais c'est là tout l'enjeu et toute la difficulté. Et en même temps, c'est passionnant, mais de revenir avec finesse au fur et à mesure, en se plaçant aux bons endroits, petit à petit, que cette notoriété se reprenne d'une manière douce et organique, et pas d'arriver avec nos gros sabots et des choses qui retomberaient en fait un peu comme un soufflet. Enfin, on a vu des marques comme ça revenir ou arriver très fort sur un marché et repartir. On n'a pas du tout envie de ça. Et du coup, c'est une installation plus lente et plus douce, mais qui est très volontaire et qui se fait dans la durée pour rester.
Oui, et puis pour aussi avoir ce positionnement premium, le côté un peu confidentiel, plus intimiste, il fonctionne très bien.
Après, on peut en souffrir aussi, hein, parce qu'on a aussi besoin de gagner en notoriété. C'est une réalité. Aujourd'hui, on a besoin de ça. On cherche à ce que les gens nous connaissent. Donc, sans tomber dans un truc énorme et... On cherche pas forcément à s'adresser à tout le monde. On n'est pas une marque pour tout le monde. Et c'est très OK. Mais on a besoin que les gens nous connaissent.
Faut trouver le juste
milieu.
C'est
ça, c'est trouver le juste milieu et c'est toute la délicatesse à trouver. C'est difficile, mais c'est passionnant et très, très chouette comme quête au final.
Et si on regarde un peu là vers l'avenir, même si ça fait pas très longtemps finalement sur la longévité de la marque que toi et tes sœurs, vous avez repris les rênes de Springcourt, si on regarde vers demain, comment vous avez envie de faire évoluer cette entreprise, vos équipes, la chaussure ou vos vies, enfin, comment toi tu l'envisages à titre personnel?
À titre perso, alors ça c'est... cette marque a un potentiel énorme. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça hein, qu'on s'accroche et qu'on travaille si dur. Parce qu'on voit où est-ce qu'elle pourrait aller. Et donc, on a vraiment envie de continuer à l'amener sur ce positionnement premium. Et la faire grandir en France et en Europe. Clairement, on a envie que les gens connaissent cette marque et connaissent son histoire et puissent potentiellement la porter. Mais au-delà de ça, il y a vraiment elle fait partie en réalité d'une forme de patrimoine ou de matrimoine aujourd'hui, je ne sais pas, français. Et c'est sûr qu'on est déjà vendu un peu à l'international. On est déjà implanté au Japon, en Australie, en Corée. On a des partenaires un peu partout. On a très envie d'aller aux États-Unis. Okay. Voir en Amérique d'une manière plus globale. On sent qu'on a une audience très réactive là-bas. Mais à partir aux États-Unis, c'est être prêt pour un marché qui a des enjeux énormes. Ouais. Donc ça se prépare, donc on s'y prépare tranquillement, mais ça fait partie des projets à moyen long terme, je dirais. Mais déjà, notre enjeu majeur, c'est de se développer en France et consolider ce marché et continuer de s'étendre. Mais tout ça avec respect et profondeur, j'allais dire, sans partir dans quelque chose de rapide et de feu de paille, quoi.
À votre image, tout en douceur. Et en
temps, Oula, je ne sais pas si on est toujours douce. Mais non, mais il y a quelque chose de très on prend le contre-pied d'un marché en faisant les choses dans la lenteur. C'est difficile d'ailleurs parce que ça peut nous jouer des tours et on se questionne là-dessus. Mais s'implanter dans un marché et dans un inconscient collectif un peu en prenant son temps, c'est aussi un vrai parti pris. Et on peut le faire uniquement parce qu'on est trois à décider. Mmh. Si on était plus trois et trois sœurs qui ont vraiment la même volonté. Donc on pousse vers les mêmes choses, mais c'est des décisions... qui sont impactantes.
Ouais, c'est un engagement, c'est un vrai statement de dire qu'on ne se développe pas à telle vitesse, mais à une autre.
Du coup, d'être très sélectif avec là où on va ou pas, c'est particulier.
Mais c'est certainement aussi pour ces raisons-là, inconsciemment, que les gens qui vous portent, vous aiment. C'est aussi pour ces valeurs-là qui ne sont peut-être pas forcément communiquées de manière aussi franche dans... quand on va regarder une photo sur Instagram de la chaussure, mais voilà, qui transparaît certainement à travers votre manière de communiquer sur la marque.
Je pense que cette marque dégage quelque chose, et je pense que ça me dépasse de base, parce que j'en fais beaucoup trop partie pour avoir un œil objectif. Mais j'ai l'impression, d'après ce qu'on entend des gens qui nous en parlent, qu'il y a quelque chose d'un peu particulier, ouais. Mais... je pense que je ne suis pas la meilleure juge de ça. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment cet enjeu d'aller chercher une audience qui ne nous connaît pas encore et qui, en réalité, peut-être nous cherche. Parce qu'il y a un besoin aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur la manière dont les choses se font et sont faites. Et qui, en fait, cherchent des marques qui ont des valeurs similaires aux nôtres. Donc, c'est aller tranquillement chercher cette audience et leur montrer qu'en fait, on est là. On est là et que on a des choses à proposer qui sont différentes du reste du marché. Et ça se fait tranquillement. Parce qu'en fait, si on prenait la parole très fort, très vite, ça serait complètement antinomique par rapport à ce discours.
Bien sûr.
Donc, c'est prendre le temps.
Bon, bah, c'est des beaux projets pour les futures années.
Puis un jour, peut-être un jour, c'est un fantasme, je pense, qui est partagé par toute ma famille, mais on adorerait refaire la prod en France, peut-être.
Ok.
Ce serait vraiment
un rêve. C'est quelque chose d'envisageable
rêve absolu.
À moyen terme ou très
complexe ? Franchement, c'est très complexe. C'est très complexe déjà parce que c'est un savoir-faire difficile à trouver, mais pas impossible, mais difficile. Mais juste aujourd'hui... malheureusement, l'économie nous permettrait pas de le faire, mais on adorerait, enfin vraiment.
Ouais, des prix, sinon j'imagine peut-être.
On vendrait une paire de G2 à 500 balles. Je pense que ça serait la fin de la marque en 6 mois, bye quoi. Donc ce serait un peu dommage. Peut-être qu'on se trompe d'ailleurs, mais je pense qu'on aurait du mal à trouver notre audience. Mais c'est sûr qu'un jour,
il y aura de nouveau un plateau rempli de prod.
Made in France sur l'usine. Sur nos semelles, ça serait vraiment un truc de ouf, quoi. Vraiment. On aimerait beaucoup. Bah, un jour, peut-être.
Peut-être que...
si des gens ont des idées, il ne faut pas hésiter.
À les contacter. Ouais, très bien. On va finir ce podcast par les questions signatures de Journal Urbain. Moi, j'aime bien aussi découvrir l'invité par ses bonnes adresses en matière de food et d'art. On n'a pas du tout parlé du resto, mais tu l'as un peu évoqué. Il fut un temps, il y avait un resto dans l'usine. Et il me semble que c'est un projet... qu'on pourra se garder pour un futur épisode.
Oui, carrément.
Mais toi, Théodora, à titre personnel, est-ce que tu peux nous partager tes bonnes adresses food et artistiques ?
Mes bonnes adresses food, j'ai une nouvelle obsession depuis quelques mois qui s'appelle Biznouille, qui est à Belleville. Et c'est un restaurant de spécialité thaï et ils font des raviolis dingues. Vraiment très très bon. Le ravioli grillé, je recommande fortement.
Donc Biznouille.
Biznouille, incroyable. C'est vraiment mon QG. J'aime beaucoup Bichette, qui est près de la rue Bichat. Alors, c'est rue Louise-Marie, Marie-Louise, j'ai oublié.
Oui.
Délicieux, très sympa, tout petit, minuscule. Il faut réserver, sinon impossible.
Okay.
C'est vraiment très sympa. Je pensais à... j'avais quoi ? L'Orion Bar, tout simplement.
QG, à l'angle de l'usine.
QG absolu, je suis vraiment extrêmement casanière dans mes adresses, parce que tout est très très près. Ouais, L'Orion Bar, hyper sympa pour déjeuner ou aller boire des coups le soir. Vraiment très cool. C'est un peu mes QG du moment. Et sinon, en termes d'adresses plus culturelles, tu disais ?
Ouais.
Je suis une fan incontournable du jeu de paume, pour toujours. Je
trouve que là, forcément, photo oblige.
Extraordinaire programmation, toujours. Je trouve que leur choix d'artiste d'expo, et je suis jamais déçue. Enfin, je trouve que c'est toujours très très bien. J'ai beaucoup d'expos qui m'ont beaucoup marqué aussi au jeu de paume. J'aime beaucoup. Je trouve que la programmation de la Philharmonie est assez dingue aussi. J'aime beaucoup. J'essaye d'aller voir pas mal de concerts, mais bon, ça dépend. Ouais, en gros, je travaille quand même beaucoup, donc en ce moment, j'ai pas le temps de sortir autant. Mais sinon, je me laisse un peu flâner dans les galeries. Vois ce qui vient. Galerie Joseph, c'est cool. J'aime bien ce qu'ils font. J'aime bien leur programmation. Mais ouais, ça vient un peu au fil de l'eau. Je me laisse plus porter par des choses qu'on me propose d'aller voir et j'aime bien pas trop savoir où je vais.
C'est quoi le dernier choc culturel ou food que t'as vécu dernièrement ?
Le dernier choc culturel, c'était le Requiem de Mozart à la scène musicale qui était mis, enfin chorégraphié par Johan Bourgeois. Je me suis pris une claque. Bon, déjà de base, ça me fait un peu pleurer, mais alors là, j'ai pleuré la moitié du truc. Ah ouais. C'était extraordinaire. J'adore son travail. Johan Bourgeois, je trouve que c'est un génie absolu, mais là, c'était dingue. Vraiment, c'était incroyable. Vraiment, grosse claque. Grosse claque.
Ok.
Ils ont joué que 2 jours, donc il faut aller les chercher là où ils sont. Ouais. Non, mais vraiment, c'était magnifique. C'était sublime.
Trop bien. Donc du coup, la food, on reste à Belleville autour de l'usine, oui. Mais le culturel, tu
parfois
peux un peu
t'éloigner. Parfois, je sors en vrai.
Tu changes d'arrondissement.
Oui. Ah, pour Johan Bourgeois, j'irai très loin.
Voilà. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Théodora. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert toute l'histoire de l'usine Springcourt, en tout cas un petit bout avec toi, parce que j'imagine que si on allait aux archives avec toi à la cave, il y en aurait encore pour une grande série. Longue vie à la chaussure Springcourt et à très bientôt.
À très bientôt, merci.